Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve qui n'a pas fini de me hanter. Nous sommes tous réunis dans la salle à manger de Pierremont. Liane, ma grand-mère, est en face de moi. L'ambiance est un peu tendue. Georges, mon grand-père, fait son show, énonce quelques vérités sur le monde tel qu'il va et tel qu'il n'est plus, tandis que Liane invite les uns et les autres à se servir pendant que c'est chaud. À la réflexion, je ne vois pas ma mère, Lucille. Je ne suis pas sûre qu'elle soit dans le rêve. Elle n'est pas là, non. À un moment, par l'un de ces hasards qui font que plusieurs conversations s'arrêtent en même temps, un ange passe, le silence se fait. Le sourire de Liane disparaît, elle se tourne vers moi et me dit
« Ce n'est pas gentil ce que vous faites, ma reine chérie, ce n'est pas gentil. »
Rien ne s'oppose à la nuit.
Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux.
Je me réveille en sursaut.
Cinquième épisode.
Et trempée de sueur. Je ne me rendors pas, pas une minute. Je sais ce vers quoi j'avance. Durant ces années avec Gabriel, mon père, Lucille ne travaillait pas. Elle s'occupait de ses deux filles. Moi, d'abord, puis Manon, ma sœur, née 4 ans après moi. Je ne peux pas écrire sur le temps que ma mère a passé avec mon père. C'est une donnée de départ, une contrainte formelle, un chapitre en creux, dérobé à l'écriture. Ces années ont été pour Lucille un temps de grande solitude. Elle l'a souvent dit. Et ont contribué à la destruction de sa personne. C'est moi qui l'écris. La rencontre de Lucille et Gabriel reste à mes yeux la rencontre de deux grandes souffrances. De leur rencontre a surgi la violence et le désarroi. Je n'ai interrogé aucun des hommes qui ont partagé la vie de Lucille. Je ne veux pas savoir quelle épouse ni quelle amante Lucille a été. Cela ne me regarde pas. J'écris Lucille avec mes yeux d'enfant grandi trop vite. J'écris ce mystère qu'elle a toujours été pour moi, à la fois si présente et si lointaine. Elle qui, lorsque j'ai eu 10 ans, ne m'a plus jamais prise dans ses bras. Lorsque Lucille quitte Gabriel, elle a 26 ans. De cette période, je garde l'image confuse d'un tableau couvert de lignes tracées à la craie blanche, que les autres enfants savaient lire et qu'il m'était impossible de déchiffrer. Le divorce de mes parents fut d'une banalité terrible, dominé par une bataille sans pitié pour la garde des enfants. Le jugement fut prononcé au tort de Lucille, dont l'infidélité fut démontrée par un constat d'adultère dressé par huissier. Celle-ci obtint la garde, ou Gabriel la lui concéda, selon les versions. Je venais d'avoir 6 ans, Manon en avait 2. Plus tard, Lucille rencontre Tibère, un géant à la chevelure orange, photographe indépendant et naturiste convaincu. Nous emménageons, avec Tibère et son fils Julien, dans un pavillon, ailleurs, à une 30aine de kilomètres de Paris. Au cœur des années 70, hier est pour nous le commencement d'une vie nouvelle. Lucille et Tibère peignent le parquet du salon en blanc et les matelas posés à même le sol, qui font office de canapé, sont teints en vert. Peu à peu, notre pavillon est envahi d'un bordel joyeux et incalculable, à l'image de notre mode de vie. Nous pouvons poser nos coudes sur la table et lécher nos assiettes, dessiner sur les murs, aller et venir comme bon nous semble. Nous passons le plus clair de notre temps dehors, avec les autres enfants. Le soir, des amis et des amis d'amis viennent dîner, boire un verre, partager quelques joints. Une épaisse fumée envahit le salon. Notre alimentation est essentiellement composée de coquillettes et de spaghettis, agrémentées ou non de sauce tomate, et nous roulons dans une vieille 403, également peinte en verre. Lucille se rend tous les jours à Paris, où elle travaille comme secrétaire dans une petite agence de publicité. Tibère se promène nu dans la maison, vole des rôtis sous cellophane à la boutique Coop et, entre deux prises de vue, joue les hommes au foyer. Nous étions différents. Nous ne ressemblions pas aux autres familles. Un week-end sur deux, notre père venait nous chercher. Nous étions les reines du monde. Les photos de ces années, pour l'essentiel prises par Tibère, sont celles que je préfère. Elles racontent une époque. J'aime leurs couleurs, leur poésie, l'utopie qu'elles contiennent.
Regarde, Violette. Incroyable. Je connaissais pas ces photos. Maman au milieu de la foule. Ça a été pris lors d'une manifestation dans le Larzac.
Oh, regarde, celle-là. Lucille avec un pantalon patte d'aile. Elle tient Manon dans ses bras, là.
Oh là là, regarde. Nous tous, nus comme des vers devant le bungalow du camp naturiste de Montalivet. Tu te souviens?
Oui. Les petits devant, les grands derrière. Parfaitement alignés.
Lucille servait parfois de modèle à Tibère. Elle n'a jamais été aussi belle.
Si les époques se résument au lieu qui les contient, hier reste pour moi l'emblème d'un avant. Avant l'inquiétude, avant la peur, avant que Lucille déraille. Certains soirs, sur le pont qui surplombait les voies, dans la lumière pâle des réverbères, rassemblés en comité d'accueil, nous guettions le train qui ramenait Lucille de Paris. Par-delà notre insouciance, sans doute commencions-nous à prendre conscience que quelque chose de lourd pesait sur elle, quelque chose qui était lié à la solitude et à la fatigue, quelque chose contre quoi nous ne pouvions rien.
Allô?
Allô, Delphine?
Oui.
C'est Barthélemy.
Ah, bonjour Barthélemy, comment ça va?
Ça va bien, même, je suis à Marseille.
Ah,
je voulais prendre de tes nouvelles.
Ah, bah, c'est sympa.
Et alors, je voulais te dire aussi que j'ai tous les renseignements que tu m'as demandé par email, tu sais.
Ah, très bien.
Alors, je voulais te demander, dis-moi, t'en es où dans ton livre? Est-ce que ça avance?
Ça va.
Ça va,
j'aurais voulu lui dire combien j'étais soulagée d'être sortie de l'enfance de Lucille. Ce temps lointain et secret qui n'a cessé de se dérober à mesure que je croyais m'en approcher. Je ne voulais pas l'inquiéter.
Mais comment te dire ?
Dès lors que Lucille est devenue mère, c'est-à-dire dès lors que je suis apparue dans la vie de Lucille, j'ai abandonné toute tentative de récit objectif à la troisième personne. Sans doute m'a-t-il semblé que le « je » pouvait s'intégrer dans le récit lui-même, tenter de l'assumer. C'est un leurre, bien entendu. Qu'ai-je vu du haut de mes 6 mois, de mes 4 ans, de mes 10 ans, et même de mes 40? Rien.
Tu peux pas savoir tout ce que j'invente pour retarder le moment de m'y mettre.
Ah bon?
Remplir le lave-linge, vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, vider le lave-linge. Alors un matin, j'ai un lumbago, un autre des contractures musculaires, ou bien des crampes. J'ai même eu un torticolis.
Oula.
Tout ça pour m'empêcher de m'asseoir devant mon ordinateur, quoi. Je rêve de fumer 25 cigarettes d'affilée sans reprendre mon souffle. Je finis par sussauter avec passion les pastilles à la menthe, à la framboise, au caramel, au pain des Vosges, parce que je fume plus.
J'en rajoute un peu, je force le trait. Mieux vaut en rire, n'est-ce pas?
Je recoupe tout.
Bref,
je
dédramatise.
Je la raccommode.
La vérité est que je ne suis pas sûre de tenir la distance, d'arriver au bout. Que j'ai le sentiment d'être piégée par ma propre démarche, dont l'impérieuse nécessité n'est plus si évidente.
Voilà, je suis suractive.
Mais rien, pourtant, ne peut m'arrêter. À la fin de l'été 1976, nous déménageons pour Bagneux, plus proche de Paris. J'entre en 6e, tandis que Manon commence son CP. Lucille n'a pas 30 ans. Elle fait encore partie d'une sorte de nébuleuse aux ramifications multiples qui unit ses frères et sœurs, ses amis et les leurs. Violette et Milo partagent à plusieurs des appartements parisiens. Lisbeth est restée dans l'Essonne. Justine vit en communauté dans une grande maison de Clamart. Ils sont reliés les uns aux autres. À ce moment-là, Lucille fait la connaissance de Nils, un garçon plus jeune qu'elle, qui vit avec Justine et d'autres.
Allô, Justine? C'est Lucille. Nils est là? Bon, je rappellerai. Je t'embrasse.
Au cours des quelques mois qu'ils passent ensemble, Lucille et Nils voient un film sur Edvard Munch, une exposition sur l'expressionnisme allemand, boivent du vin et parlent tard dans le silence des nuits. Lucille partage avec Nils un profond désespoir et d'intenses conversations sur l'hypothèse du suicide.
Allô, Justine? C'est encore Lucille. Neil, c'est toujours pas rentré? Non, j'ai pas de nouvelles. Bon, tu me promets de lui dire que j'ai appelé, hein, dès que tu le vois. Je t'embrasse.
Aujourd'hui, lorsque je tente de comprendre le lien qui unissait Lucille à Niels, il me semble qu'il revêt cette ambivalence. Ma mère éprouvait une forme de paix, de soulagement, à côtoyer d'aussi près quelqu'un dont le tourment était au moins aussi douloureux que le sien.
Toujours pas? Je comprends pas. On devait passer le week-end ensemble. Tu veux pas aller voir dans sa chambre?
Justine, enceinte de 5 mois, finit par aller voir. Ouvre la porte et trouve Niels mort, allongé sur le sol, la cervelle disséminée aux 4 coins de la pièce. Il s'est tiré une balle dans la bouche. Il a 21 ans. Niels est sorti de notre vie comme il y était entré. Lucille se met à fumer seule, tous les soirs, au retour de son travail, de l'herbe et du shit. Très vite, ce rituel m'est devenu insupportable. C'était moi qui la réveillais le matin. C'était moi qui m'inquiétais de savoir si elle se rendait à son travail. C'était moi qui faisais la gueule parce qu'elle ne parvenait plus à nous parler. Jusque-là, Lucille avait été ma maman. Une maman différente des autres, plus belle, plus mystérieuse. Mais je prenais maintenant conscience de la distance physique qui me séparait d'elle. Je la regardais avec d'autres yeux. Ceux de l'école, ceux de l'institution, ceux qui la comparaient aux autres mères, ceux qui cherchaient la douceur qui avait disparu des siens. Une mère idéale assiégea bientôt mon espace mental. La mère idéale était une bourgeoise d'intérieur qui veillait sur l'intégrité de ses enfants et de son papier peint. La mère idéale ne se défonçait pas tous les soirs, préparait le petit déjeuner avant de réveiller les siens, les regardait partir en classe, l'œil embué et le sourire confiant. Je rêvais d'une vie cadrée, confinée, réglée. Je m'éloignais de Lucille, ou elle s'éloignait de moi. Je lui en voulais de ne pas être plus forte, de ne pas faire face. Un jour de printemps, un appel nous apprit la mort de Milo. Au fond d'un bois ou d'une clairière, le frère de ma mère s'était tiré une balle dans la tête. Je ne pris pas tout de suite la mesure de l'information.
Allô, papa ?
Allô ?
Lorsque je l'annonçais
moi.
À mon père, la mort de Milo obligeait à décaler les week-ends,
Milo est mort.
Il demanda à parler à Lucille.
Tu peux me passer ta maman, ma chérie ?
Pour la première fois, Lucille et Gabriel eurent une conversation qui me sembla normale et se termina sans cri.
Samedi.
En silence, je remerciais Milo de ce miracle. Nous sommes partis quelques jours plus tard à Pierremont, où se déroulait la messe donnée pour ses obsèques. Cette fois, je ne pus rien ignorer de la douleur qui ravageait ma famille. Elle saturait l'air comme de la poudre d'explosifs. Dans les semaines qui ont suivi, je m'inquiétais davantage pour Lucille.
J'ai peur pour maman. Cette peur ne me quitte pas. Elle m'empêche même de respirer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tous les soirs, quand je tourne la clé dans la porte, j'ai peur. Et si elle aussi, elle l'avait fait? Je n'arrive pas à penser à autre chose. Lorsque je rentre, je regarde d'abord sur la moquette du salon. Il paraît que les morts gisent par terre. Puis je vais vérifier dans sa chambre. Et là, je peux respirer. Ce matin, maman a écrit avec un rouge à lèvres très rouge sur le miroir de la salle de bain. Je vais craquer.
Un soir, alors qu'une de mes tantes nous raccompagnait après que nous ayons dîné chez elle, la voiture qui nous suivait d'un peu trop près nous percuta dans un grand bruit de ferraille. Manon et moi étions toutes les deux assises sur la banquette arrière. De la place avant où elle se trouvait, Lucille bondit à l'extérieur, ouvrit notre portière en hurlant « Ma fille, ma fille !» se jeta sur Manon. Cette utilisation du singulier « Ma fille » adressée à Manon, même dans la plus intense panique, m'a paru comme la preuve de sa démission. Je n'avais plus de contact physique avec elle depuis déjà longtemps. Manon venait sur ses genoux, Manon l'embrassait, l'enlaçait, Manon ne se rendait compte de rien. Manon était sa fille. J'étais devenue son ennemie, j'étais du côté de mon père, du côté des bourgeois, des riches et des réactionnaires. Je ne comptais plus.
Ma fille ! Ma fille !
Bien sûr, aujourd'hui que je l'écris, et alors que je n'ai plus aucun doute quant au fait que Lucille m'a aimée, l'épisode de la voiture m'apparaît sous un autre jour, qui interroge ma manière d'être, et ce depuis si longtemps, cette façon de vouloir paraître si forte quand je suis si fragile, qu'on finit sans doute par me croire. La légende raconte que Nils, Milo et Baptiste, le cousin de ma mère, un soir qu'ils avaient un peu d'argent à flamber et dînaient dans un grand restaurant, se sont fait la promesse de mettre fin à leur jour. La légende parle d'un pacte, passé entre eux, dont Lucille connaissait l'existence, voire auquel, de manière tacite, elle s'était associée. Encore aujourd'hui, au cours des entretiens que j'ai menés, plusieurs personnes en ont évoqué l'hypothèse ou restent convaincues de l'existence de ce pacte. Justine, elle, ne croit pas que ce pacte ait vraiment existé. À chacun des frères et sœurs de Lucille, j'ai demandé de me parler de Milo, disparu si jeune. Dans cette fratrie de 9 enfants, il est le 3e frère mort. J'ignore si ces douleurs s'additionnent ou se multiplient. Mais je pense que, pour une même famille, cela commence à faire beaucoup. Elisabeth de me répondre, avec l'humour provocateur qui est le sien.
Tu sais, on commençait à avoir l'habitude.
De Milo, on raconte.
Il était fragile.
Il s'est beaucoup opposé à son père.
Il a été détruit par lui. Il n'a jamais vraiment trouvé sa place.
Il était proche de Jean-Marc. Il a été particulièrement affecté par sa mort.
Il vivait de petits boulots.
Il a cru à la Révolution.
Il buvait beaucoup pour son âge.
Il a eu un gros chagrin d'amour.
Il est né 2 semaines après terme.
Il était maladroit, il faisait tout tomber.
Il est le premier de la fratrie à avoir eu son bac. Un jour, Georges lui a demandé sur un ton solennel ce qu'il allait en faire. Milo a répondu, écrasant sa cigarette dans un sourire victorieux, « Partir en vacances, longtemps. »
À Lucille, il avait offert les paroles d'une chanson interprétée par Mouloudji, recopiée de sa main, que tous les deux chantaient à l'époque et que nous chantions avec elle, dont je n'ai pas oublié l'air, ni le dernier couplet. Autant de pavés par le monde, de grands et de petits pavés, que de chagrins enclavés dans ma pauvre âme vagabonde. Je meurs de tout cela. Je meurs de tout cela. Et ma chanson s'arrête là. Un samedi matin, Milo est parti de chez lui, a acheté un pistolet dans une boutique, a pris un train de banlieue et s'est enfoncé dans une forêt, quelque part à l'est, m'a-t-on dit. Comme je l'ai fait pour les autres, j'ai écouté pour les retranscrire les enregistrements des 3 entretiens que j'ai menés auprès de Violette.
Au moment de la mort de Milo, moi j'étais en vacances dans la Drôme et on n'a pas jugé utile de me prévenir. C'est dingue, on ne t'a pas averti. Non. J'ai appris la nouvelle que 8 jours plus tard, à mon retour. Et entre-temps, Barthélemy était allé reconnaître le corps à l'Institut médico-légal avec notre père. Milo est enterré à côté d'Antonin et de Jean-Marc. Quand même, heureusement, j'ai pu assister à la messe qui a eu lieu à Pierremont. C'était terrible, la souffrance de papa. C'était un paquet de haine, compact, amer, qui nous jetait à la face à tous. Je suis allée dans ta salle de bain. Je sais plus où elle est. Tu sais, au moment d'idée de la maison de Pierremont, on a retrouvé des objets fétiches que ta grand-mère, Yann, avait rassemblés pour chacun de ses fils disparus. Pour Milo, il y avait sa carte orange, son briquet et l'agenda. à la date exacte de sa mort.
Sur laquelle il avait écrit quoi ?
Je ne pleure pas. Je veux savoir.
Sur lequel il avait écrit « Je vous demande pardon. J'ai jamais voulu vivre. »
Tu te rends compte des effets que provoque ta démarche ? Tu sais que maintenant, entre les frères et sœurs, on commence à se parler. On en parle, on se raconte ce qu'on se racontait plus depuis des lustres. Parce que chacun connaît l'histoire des morts et des vivants quand même. Tu sais, ça fait bouger le système, ça.
Ces mots me font sourire. Je voudrais écouter encore cet enregistrement, en saisir le moindre souffle. Ne rien perdre du cadeau qu'elle m'a fait, comme les autres, en acceptant de se prêter au jeu.
Tu sais, j'ai hâte de lire le livre.
Ça me touchera, je pense, de lire ta Lucile. Parce que je crois que malgré tout, elle vous a permis d'entrer dans la vie de plein pied. Il y a des photos d'elle, d'une douceur, tu sais.
Oui, c'est exactement ça. Je voudrais rendre compte du tumulte, mais aussi de la douceur.
Là de t'attendre dans la rue, j'ai lancé deux petits pavés sur tes carreaux que j'ai crevés, mais tu ne m'es pas apparu. Tu te moques de tout, je crois. Tu te moques de tout, je crois. Demain je t'en lancerai trois. Par devant ta porte cochère, pour faire tomber tes amis, trois et quatre pavés j'ai mis. J'exècre tes amis, ma chère. Demain je recommencerai, et tes amants je les tuerai. Si tu ne changes pas d'allure, j'écraserai tes yeux, ton front, entre deux pavés qui feront à ton crâne quelques fêlures. Je t'aime bien pourtant. Je t'aime bien.
C'était
pourtant.
Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. 5e épisode. Avec Elsa Le Poivre et Luce Mouchel, Françoise Gillard, Suzanne Aubert, Marianne Épin, Françoise Lebrun, Sophie Dole, Jean-Claude Frissung, Marie Daude. Et les voix de Olivier Boudran, Paul Schmitt, Laurent Lederer, Bernadette Le Sachet, Albert Delpy, Sandy Ouvrier, Thomas Dahl, Félix Pruvot, Sophie Bezard, Ralph Rousseau, Stéphane Giraudot, Othello Villegard, Clémence Barbier, Philippe Chêne, Ombline de la Tessonnière, Alice, Marion, Gaspard, Jules, Lou et Gabriel. Bruitage, Sophie Bissens, assistée d'Elodie Fiat. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Prise de son, montage et mixage, Catherine Déréthée et Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan, est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.